Mondial Sport, Hugo Moissonnier.
Bonjour à toutes et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour conclure la semaine en beauté dans Mondial Sport, les plus grands exploits aux quatre coins du globe sur RFI. Et justement, un sport de géant pour deux continents est au sommaire ce week-end, du basket et de la NBA sur différents parquets, ceux de la BAL ou BAL, Basketball Africa League, quoi. La compétition labellisée NBA de l'Afrique, la deuxième conférence vient de se refermer en Égypte, le troisième et dernier acte de la phase de groupe va bientôt débuter au Sénégal à Dakar. Le tableau de la phase finale prévu comme toujours à Kigali se précise. Nous parlerons aussi de la NBA tout court, celle du rêve américain, un rêve pas si agréable que ça, voire qui vire au cauchemar en ce moment pour Joel Embiid, en tout cas du côté de la France. Le pivot vedette né au Cameroun, devenu français on va dire sur le papier, mais qui représentera finalement la team USA, donc les États-Unis aux Jeux Olympiques, le tout dans la polémique en France. Je ne sais pas si vous suivez, on va éclaircir tout ça dans quelques instants dans Mondial Sport.
Ce qui nous unit, c'est le basket.
The winners of the 2023 Basketball Africa League are Al Ahly.
Now, the horizon expands further. From March 2024, the BAL will break new ground. The roar of the African basketball spirit will echo in four different countries. With the debut of the Kalahari Conference in South Africa, witness history as the top 12 club teams battle for the Basketball African League Season 4 title. This is more than a game. It's a movement. A symphony of sport, culture, and unity. It's Africa rising. It's the world watching. It's the heartbeat of tomorrow. Get ready for the BAL Season 4.
Alors, pas besoin de maîtriser l'anglais, la langue de Shakespeare, pour être galvanisé par cette bande-annonce de la BAL, la BAL, Basketball Africa League, saison 4. On sent la patte américaine NBA dans ce teaser en forme de blockbuster, casting en forme de blockbuster, casting hollywoodien également pour nous dans Mondial Sport avec un duo majeur pour débuter cette émission. Nos consultants vedettes sont là en studio. Malik Dao, bonjour.
Bonjour Hugo, bonjour à tous.
Et Karim Baldé, bonjour Karim.
Bonjour Hugo, bonjour à tous et bonjour à toute la Guinée au passage.
Oui, que vous venez de quitter, ils sont épleurés sur place. Malik Dao, lui, était en Égypte pour suivre la deuxième phase de la phase de groupe.
C'est ça.
L'équivalent de la saison régulière dans la Basketball Africa League. Vous couvrez, on peut les citer, hein, cette compétition pour Canal+, oui. Plus Afrique, nos amis. Donc cette saison régulière, vous venez de suivre donc, les quatre équipes de la Conférence du Nil qui ont livré bataille sur les parquets Kérot. Deux équipes se sont qualifiées directement pour la phase finale, donc les play-offs qui auront lieu à la fin du mois au Rwanda. Parmi ces qualifiés, Al Ahly, le tenant du titre, égyptien, Al Ahly du Caire, qui évoluait à domicile. Al Ahly est bon en basket et pas seulement en football. Al Ahly premier, Al Ahly deuxième, sauf que ce n'est pas le même. C'est le Al Ahly Benghazi de Libye. Troisième et encore en mesure de valider un ticket pour Kigali, Bangui Sporting Club. Alors ça nous intéresse forcément sur RFI, le club centrafricain créé il y a 7 ans à peine. Il peut encore être parmi les deux meilleurs troisièmes. Je parle sous votre contrôle, Maïk. Il faudra attendre les résultats donc de la troisième poule, la troisième conférence de la saison régulière qui aura lieu à Dakar. Ça débute bientôt.
Samedi.
Vous y allez?
Ah oui. je commente la BAL depuis le début, hein, depuis la toute première saison. Je commente la BAL. On est devenu une petite famille, quoi.
En tout cas, vous êtes vraiment entre deux avions et c'est au sens littéral de l'expression. Vous êtes descendu de l'avion quoi, ce matin ?
Ce matin.
Et, et vous êtes bientôt sur le départ.
Jeudi, je repars pour Dakar, pour la conférence Sahara.
et les supporters centrafricains de Bangui Sporting Club seront donc suspendus au résultat de cette conférence dakaroise, conférence Sahara. En attendant, ils ont beaucoup aimé ce qu'ils ont vu du côté de Bangui Sporting Club au Caire, un club centrafricain créé il y a 7 ans à peine. Karim Baldé peut encore donc parmi être les deux meilleurs troisièmes pour accéder à la dernière phase de la Basketball Africa League. Il a beaucoup plu, ce club, à ses supporters au pays, à Bangui. Le reportage, Rolf Steve Domialu.
Ce dimanche matin, quelques supporters de Bangui Sporting Club sont regroupés dans leur fan zone à l'angle ouest du palais des sports de Bangui. Les esprits sont tranquilles, les yeux rivés sur l'écran géant. Personne ne rate une minute du résumé des matchs proposés par la fédération. Paterne Boussoupi est un fervent supporter de Bangui Sporting Club.
C'est une équipe qui a un très bon mental. C'est des guerriers, ce sont des guerriers. C'est une grosse fierté pour la République parce qu'ils sont partis taper des gens à l'extérieur. Pour moi, c'est une grosse fierté. C'est une équipe qui ira loin.
Pour sa première participation, le champion de la République centrafricaine termine la conférence NIL avec 3 victoires et 3 défaites en 6 matchs. C'est un bilan positif selon Christian Emendota, chroniqueur sportif centrafricain.
Le Bangui Sporting Club, c'est avant tout le projet de Cyril Damago de voir le basketball centrafricain renaître et la Basket Africa League est donc une opportunité pour lui d'asseoir cette vision. Le club n'a que 7 ans d'existence, il faut le rappeler. Il a bâti donc une équipe bien organisée. Malgré son faux pas contre le Al Ahly lors du premier match de cette conférence du Nil, l'équipe a montré qu'elle avait des ressources pour ainsi bousculer le champion en titre, le Al Ahly du Caire. Mais leur seconde rencontre n'aura pas du tout été aisée, la fatigue sans doute.
Maillot de Bangui Sporting Club sur le dos, Owen Koningai est fier de son équipe.
En voyant le match, je dirais que le niveau est bon. Il faudra ce que nous puissions déployer encore des efforts pour que le niveau puisse aller de l'avant. Aucun club de notre pays n'a pu atteindre ce stade-là il y a fort longtemps. Le peuple centrafricain est fier d'eux et qu'ils doivent relever le défi.
Et le prochain défi se prépare maintenant. Christian Emendota.
Le Bangui Sporting Club est sur la bonne voie et devrait se fidéliser par contre avec un entraîneur pour la prochaine saison de la balle, car depuis 2022, le club a eu 3 entraîneurs différents. Dans l'ensemble, l'équipe centrafricaine n'a pas démérité. Au contraire, elle a montré un visage séduisant, avec notamment le jeune Thierry Serge Darlan, inscrit à la draft NBA 2024, ou alors le colosse Omega Ngaife, qui lui est un inconnu qui a débuté dans le championnat de Bangui avant d'aller jouer dans 2 clubs équato-guinéens et burundais.
Selon de nombreux observateurs, cette conférence NIL marque un tournant décisif vers la renaissance du basketball, considéré comme le sport roi en Centrafrique. Rolf Esteve Domialu, Bangui, RF.
C'est vrai que ça paraît logique d'avoir un club centrafricain pour un tel pays de basket, d'avoir un représentant centrafricain, que ce pays soit représenté dans la Basketball Africa League, donc la NBA, la toute jeune NBA du continent. Malik Dao, Bangui, ils vous ont plu? Un club qui vient du tout début,
oui,
de cette Basketball Africa League, du premier tour de qualification.
Voilà, il y a un premier tour de qualification qui s'appelle la Road to BAL. Bangui qui sort des poules et qui va se retrouver dans la deuxième étape qu'on appelle l'Elite 16. Mm. Et l'Elite 16 est divisée en 2 groupes, groupe S, groupe Ouest. Et le BSC remporte le groupe Ouest à Yaoundé, c'était au mois de novembre. Donc ils ont fait vraiment tout le parcours pour arriver là à la conférence du Nil. Aujourd'hui, on ne sait pas s'ils seront qualifiés ou pas, mais c'est un parcours tout à fait honorable. Et on a parlé de Cyril Damango. Je tiens à dire que voilà, ce jeune homme-là, il est à encourager, il est à féliciter. Maintenant, il ne faut pas que ce soit un one-shot, il faut que ça dure dans le temps.
Parce que pour l'instant, dans cette balle et ses qualifications, pour que ce soit dans le palmarès d'ailleurs global de la compétition depuis qu'elle existe, et puis dans les qualifications là pour le Rwanda, donc pour les play-offs, on a beaucoup de clubs d'Afrique du Nord et on a un club angolais, et ça manquait un petit peu peut-être
d'Afrique francophone,
oui, subsaharienne.
Attention, la S-Douane a été finaliste l'année dernière.
C'est dégueulasse.
Il ne faut pas oublier.
C'est vrai, mais si on veut faire le parallèle avec le football, c'est vrai qu'on constate ça aussi en Ligue des Champions. Finalement, africaine de football, on voit beaucoup et on le voit encore avec la prochaine finale.
Exactement.
De la Ligue des Champions, où ça va être des clubs d'Afrique du Nord, et sinon on a par exemple le Mamelodi Sundowns côté Afrique australe. Donc c'est bien d'entendre et de voir des clubs comme celui de Bangui émerger au plus haut niveau, et c'est ce qui est bien d'ailleurs dans ce système de balle avec le système que Malik a décrit, justement, le road to BAL, après le Elite 16, etc. Parce que contrairement à la NBA qui est une ligue fermée, donc c'est-à-dire qu'on a les mêmes clubs tout le temps, là, cette fois-ci, il y a une possibilité pour chaque club, même des petits pays, éventuellement d'atterrir justement dans les 12 meilleures équipes qui jouent la Basketball Africa League. Donc ça, je trouve que c'est un bon système. Et en plus, on voit qu'avec la rigueur mise par les Américains, finalement, tout le monde est obligé de se mettre au diapason aussi au niveau des infrastructures, au niveau de la façon de faire, pour espérer gagner et donc titiller les meilleures équipes du continent.
Malik Daou, toujours sur le plan sportif, les équipes de tête. Donc, Al Ahly, le géant du Caire, géant autant en basket qu'en football. Et puis, Al Ahly Benghazi, Libye. Alors ça, c'est peut-être un peu plus surprenant. Ça a été un bon niveau, cette séquence du Nil, est bien organisée. Il y a régulièrement maintenant, en balle, en BAL, cette conférence, ce groupe au Caire. Donc on commence à avoir l'habitude peut-être dans la capitale égyptienne d'accueillir la Basketball Africa League.
Oui, on va dire que l'Égypte aujourd'hui est une des places fortes du basket africain, aussi bien en club qu'en sélection nationale. On a le Zamalek qui remporte la toute première édition de la BAL.
Mais qui n'est pas, qui n'est pas concerné cette année par les playoffs.
Et puis Al Ahly, Sporting Club du Caire, qui a remporté l'édition dernière. Donc pour dire que voilà, c'est un pays qui est très très bon en termes de basketball. C'est un pays dont les clubs sont organisés. Parce qu'il n'y a pas de surprise non plus. Les gens ont été étonnés par le niveau de Al Ahly Benghazi. Mais si on regarde le championnat de Libye entre Al Ahly Tripoli, Al Ahly Benghazi, mais c'était match de haute volée. Et puis on a Al Ittihad aussi de Libye qui est très très bon. Et puis derrière, ce sont des championnats où les joueurs sont très bien payés. Il n'y a pas de retard de salaire comme on peut le voir ailleurs. C'est rigoureux. Et la dernière fenêtre de la FIBA pour la qualification pour l'Afrobasket l'année prochaine, par exemple, ils sont à 2 victoires et 1 défaite. Et pas contre des charlots. Donc, pour dire que le basket libyen est vraiment en plein essor. Le basket libyen est vraiment en plein essor. Et un joueur comme Souleymane Diabaté qui a dit, voilà, moi, je me plais bien là-bas, j'ai pas envie de partir. Sinon, il va falloir sortir le chéquier.
Vous étiez en Guinée, Karim Baldé. Est-ce qu'on suit la Basketball Africa League et une étape du Caire en pas Afrique de l'Ouest?
Pas vraiment.
Vous faites un peu l'amour.
Je ne voulais pas. Je ne voulais pas être aux autres de mauvais augure. Pas
honnête.
Vraiment. Malgré le fait que, et on parlait de Canal+, et Malik quand c'est quelque chose, malgré le fait que la BAL soit bien retransmis en Afrique par Canal+, mais aussi par TV5 Monde par exemple. Donc c'est plus facile de regarder la BAL aujourd'hui que de regarder la Ligue des Champions par exemple dans certains pays. Donc
quand on est en Afrique, c'est plus simple de regarder, d'accord,
de regarder la BAL que certaines autres compétitions. Donc ils ont fait un effort quand même en termes d'exposition, même en radio avec Voice of America, si je dis pas de bêtises. Donc en radio, donc en radio, en télé, ils ont quand même fait un effort au niveau de la BAL pour que ce soit le plus accessible possible. Après, est-ce que les gens suivent? En tout cas, à Conakry, moi, de ce que j'ai perçu, pas vraiment, d'autant plus s'il n'y a pas d'équipe guinéenne concernée, comme là, c'est le cas dans la conférence.
Il y avait plus de monde l'année dernière quand le Slack,
par exemple,
participait. Bon, malheureusement, le Slack s'est planté cette saison.
Bon, on suivra ça en Guinée peut-être les autres années. Nous, on continue à suivre et à parler de la Basketball Africa League dans Mondial Sport. Juste après, Emma Peters, multicolore. Vous écoutez Mondial Sport, on est en direct, on est entre amis, on parle basket, c'est super. On est sur RFI.
Seul chez toi, tu restes là, tu n'oses pas. Même à ton meilleur pote, qu'est-ce qu'il dira? Dans ton petit village, tout le monde se connaît. Faut pas foutre la honte à ta famille modèle. Oh là là, la vie c'est tes ennuis, ça on te l'a trop dit. Oh là là, toi tu n'y crois même pas, ta vie tu la vois comme ça. Toi, ça ne t'atteint pas. Tout est normal, t'es amoureux, tu ne choisis pas. Et fais une pause, t'as quelque chose de plus que ces gens-là. Oh, t'as le droit de prendre qui tu veux dans tes bras.
Malik Dao, est-ce que c'était multicolore dans les tribunes au Caire à l'occasion de la conférence du Nil dans la Basketball Africa League? Est-ce qu'il y avait de l'ambiance à défaut d'être regardé en Guinée? Est-ce qu'on était observé dans les tribunes pour les joueurs?
Oui, il y avait un public assez fidèle. C'est pas la grande affluence parce qu'aujourd'hui en Égypte, pour des raisons de sécurité, il y a des limitations en termes d'affluence. Aussi bien au basket, au hand que dans d'autres sports. Et multicolore parce qu'il y avait les Égyptiens, les supporters d'Al Ahly. Il y a aussi une grosse communauté sud-soudanaise qui, à cause des problèmes de guerre, s'est réfugiée en Égypte. Donc ces jeunes-là qui viennent supporter des joueurs sud-soudanais, quel que soit le club dans lequel ils évoluent. Et ça a mis beaucoup d'ambiance. Puis pendant les temps morts, pendant les cartons, il y avait aussi beaucoup d'animation et... Ça a été très intéressant.
Oui, et puis le Soudan du Sud est devenu lui-même un grand pays de basket, avec aussi des liens avec la NBA, mais c'est plus tard, peut-être qu'on en reparlera, c'est même sûr qu'on en reparlera dans Mondial Sport. On parlait tout à l'heure de Bangui, donc, qui a terminé troisième dans cette conférence du Nil, qui sera en concurrence avec les troisièmes de la conférence d'Afrique du Sud, qui a ouvert le bal de la saison régulière de là-bas, les Cape Town Tigers, justement des Sud-Africains qui, eux aussi, viennent du tréfonds, j'ai envie de dire, des tréfonds de cette balle. Et puis le troisième larron en lice pour la qualification en tant que meilleur troisième pour les playoffs de la balle, eh bien on va le connaître d'ici quelques jours. Dernière conférence à Dakar. Ouais. Malik Dao, simplement dire que il y aura quatre équipes, les finalistes de l'an passé, donc les Sénégalais de la S-Douane à domicile, les Rwandais d'APR qui eux voudront être à domicile pour les phases finales, les Tunisiens de Monastir
ancien
vainqueur
champion
de la première. Ouais. Édition de la balle, et les Nigérians de Rivers Hoopers.
La deuxième. Monastir, c'était la deuxième, oui.
C'était la deuxième, pardon. En tout cas, ils ont gagné. Oui, Zamalek, Monastir, Al Ahly. Voilà, c'est ça. Le palmarès, on peut encore le citer assez rapidement. Vous en attendez quoi, vous, Karim Baldé, de cette troisième phase de la Basketball Africa League, cette troisième conférence?
Bon, on attend du spectacle, évidemment, notamment avec la S-Douane. Hein. On en parlait tout à l'heure, justement, qui avait été finaliste de la compétition. Après, pour le reste, oui, ça reste quand même assez relevé. Et ce qui est bien, d'ailleurs, cette année, avec ces trois conférences, désormais, au lieu de deux auparavant, je parle toujours sous le contrôle de Malik, c'est que ça permet aussi d'avoir trois endroits vraiment très éloignés en Afrique, que ce soit l'Égypte, le Sénégal et l'Afrique du Sud. Et ça participe justement à répandre, finalement, le basket sur le continent. Donc, je trouve ça bien qu'il y ait trois conférences. Pourquoi pas avoir quatre à l'avenir, mais... En tout cas, voilà, c'est bien d'avoir ces trois conférences-là à des endroits très différents et une phase finale en Afrique de l'Est à Kigali. En tout cas, dans le format, c'est mieux que d'avoir des championnats où on tente de jouer dans des pays qui n'ont pas les infrastructures. Moi, je préfère encore que tout soit regroupé dans des endroits où on peut jouer du vrai et du beau basket.
Oui, là, c'est vrai que ça fait un meilleur maillage. Avant, on n'avait que la conférence de Dakar, la conférence du Caire. Donc, on était dans une partie plutôt nord, on va dire, hein, en parlant très largement de l'Afrique. Là, on va en Afrique du Sud. C'était bien, d'ailleurs, la conférence sud-africaine pour une première,
Malik Dao? Pour l'instant, en termes d'ambiance, Pretoria a battu le Caire. En termes d'ambiance, maintenant, en termes de niveau... Le niveau sportif, s'entend, était meilleur en Égypte qu'en Afrique du Sud. Puis les Cape Town Tigers qui sont des miraculés parce qu'ils sont déjà qualifiés. Donc il ne restera qu'un seul ticket de meilleur troisième.
C'est-à-dire, eux, ils sont assurés d'être meilleur troisième quoi qu'il arrive.
La différence, le pointage average entre le Bangui Sporting Club et les Cape Town Tigers est en défaveur du BSC, malheureusement, pour les Centrafricains.
Donc les Centrafricains ne peuvent pas être meilleurs que les Cape Town Tigers.
Voilà. Donc d'office, les Tigers sont qualifiés. Donc Bangui doit attendre maintenant d'avoir un meilleur point average que le troisième de la conférence Sahara.
Ah, donc c'est vraiment tous les regards sont tournés vers le...
On a sorti les calculs.
heureusement que vous êtes venu hein, pour nous raconter ce que vous avez vu, aussi pour corriger mes approximations. C'est bien de le faire. 8 équipes en tout seront à Kigali pour les playoffs. Ouais. Donc ça débutera à la fin du mois de mai. Kigali d'ailleurs, le Rwanda a la main sur cette Basketball African League.
Les sponsors, forcément. Hein.
Ça vous étonne pas forcément. Karim Baleh, c'est un pays qui se développe, qui se relève aussi grâce au sport. Et quand je dis se relève, parce que évidemment là on parle beaucoup des 30 ans. C'était il y a 30 ans le génocide qui a évidemment fait énormément de mal à ce pays. Et la balle donc fait partie, est en plein dans la stratégie du Rwanda par
oui,
le
clairement.
Sport.
Clairement, la balle, c'est l'une des vitrines pour le Rwanda, avec son sponsor, justement, Visit Rwanda, qui s'affiche même un peu partout dans le monde, même dans le foot, par exemple, ouais. au PSG, à Arsenal, par exemple. Donc, effectivement, le Rwanda se sert du sport pour gagner en notoriété. Par exemple, le Tour du Rwanda cycliste, c'est quand même une compétition majeure maintenant sur le continent. En revanche, voilà, tout ce qui est basket, là, ça peut prendre une aura bien, bien supérieure. Donc, effectivement, le Rwanda, et puis, ils mettent le paquet au niveau des infrastructures, au niveau des connexions Internet, au niveau des routes. Donc, ça fait qu'on a envie d'aller au Rwanda pour vivre des grandes compétitions africaines.
Mais la main mise. Sportif, hein, sur le plan sportif.
Et ils ont un club à l'APR, là, qui peut...
Oui, ils ont l'APR, mais ils sont en train d'avoir un championnat de très, très bon niveau aussi.
En basket.
Oui, en basket, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas un club rwandais sans joueurs étrangers et de préférence américains. Donc voilà, ce sont des clubs qui s'organisent, une fédération, la Ferwaba, qui travaille bien aussi. Donc voilà, ce n'est pas juste du soft power, comme on dit, mais le niveau sportif est en train de s'élever au Rwanda au niveau du basket.
Le basket, le Rwanda, la Basketball Africa League, tout ça c'est dans Mondial Sport ce dimanche sur RFI. Mais il y a d'autres choses à savoir sur l'actualité de ce dimanche 28 avril. Voilà le petit jingle qui a mis du temps à venir, mais il est bien là, tout comme Thomas de Saint-Léger qui nous a rejoint. Il a entendu parler Tour du Rwanda, comme il aime le vélo et il aime le Rwanda et le Tour du Rwanda. Eh bien, il a accouru dans notre studio. Bonjour Thomas.
Oui, bonjour Hugo, bonjour tout le monde.
Mais vous n'allez pas nous parler de cyclisme, en tout cas pas tout de suite, plutôt
pas aujourd'hui.
Football et football en Afrique, compétition continentale, Coupe de la Confédération.
Oui, on devrait connaître l'affiche de la finale ce soir. Et j'utilise le conditionnel parce qu'en fait, on ne sait pas vraiment si ce match entre la Renaissance de Berkane et l'USM Alger, cette demi-finale qui est prévue à 19h temps universel, se jouera ou non. On va rappeler quand même cet imbroglio géopolitico-sportif du match aller la semaine dernière. Le maillot de Berkane confisqué par les autorités algériennes, car siglé d'une carte du Maroc avec le Sahara occidental. Résultat, le match est donné remporté sur tapis vert 3-0 par les Marocains, et on se dit donc que les Algériens pourraient en retour boycotter à leur tour cette deuxième manche. Suspense. L'autre rencontre, et là ça joue et ça joue bien, entre Dreams FC et le Zamalek du Caire. 30 minutes de jouer, le Zamalek mène 2-0. Il y avait eu 0-0 au match aller, c'est bien parti donc pour les Égyptiens.
Je peux pas résister à l'envie, Malik Daou et Karim Baldé, nos consultants du jour, de vous faire réagir. Voilà, on est aux portes d'une finale continentale et on a un imbroglio. Oui. Et malheureusement, j'ai envie de dire, c'est assez exceptionnel et pas tant que ça, parce que des polémiques peut y en avoir. La CAF a pas extrêmement bien. Elle a fini par trancher, mais elle a mis du temps à trancher.
Mais le problème, c'est que la CAF n'a toujours pas pris de vraies décisions plus globalement par rapport à ce qui se passe entre le Maroc et l'Algérie. On se souvient de ce qui s'est passé lors de la CAN U17, par exemple. Donc, c'est tout le problème.
Le CHAN, pardon.
Ouais. Voilà, donc du coup, tant que c'est pas tranché, tant que la CAF ne prendra pas une décision claire là-dessus, eh ben on aura ce genre d'imbroglio et forcément ça arrive dans les mauvais moments. Là, par exemple, en demi-finale de la Coupe de la Confédération.
Oui, quand la diplomatie se mêle avec le avec le sport,
c'est toujours embêtant parce que moi dimanche dernier j'ai regardé le fameux 0-0 entre Zamalek et Dreams FC. J'étais au stade. Les gens disaient on va aller se qualifier au Ghana, et puis bon, pour l'instant ça en prend le chemin. Mais je veux dire que quand on mêle tous ces éléments-là au sport, c'est toujours compliqué. Pour parler de basket, on a parlé aussi de l'épisode Dynamo du Burundi.
On va en reparler, voilà. Parce que justement je vais vous faire réagir tout à l'heure pour qu'on ait bien tous les...
C'est, c'est, c'est très embêtant.
Oui, ça fait partie des clés de cette balle de 2024. On va y revenir juste après le point actualité de Thomas de Saint-Léger. On continue sur le football européen. Cette fois, la Première Ligue, le nord de Londres.
Oui, la 35e journée. On va d'abord dire que, bon, pour la course au titre, Liverpool est un petit peu hors course. Hein, le match ouais, nul de partout hier à West Ham a fait mal, mais il reste Arsenal et Manchester City qui se livrent ce duel à distance. Arsenal a mis la pression en gagnant donc effectivement le derby londonien à Tottenham tout à l'heure. 3-2, City doit réagir et réagit pour le moment en menant 1-0 sur la pelouse de Nottingham Forest. On est à la mi-temps. Si je fais les comptes, Hugo, on aurait donc Arsenal avec 80 points en tête de la Premier League. Manchester City provisoirement avec cette victoire qui se dessine, on va dire, à 79 points, une longueur derrière. Mais on rappelle que City a encore un match de retard par rapport à Arsenal. C'est toujours aussi serré donc en tête du championnat d'Angleterre. Et ce sera serré jusqu'au bout. Sans
course au titre passionnante en Angleterre. Oui. Et puis il y a la Ligue 1 où le PSG fait match nul 3 partout l'année dernière.
Mais il ne faut pas rigoler. La Ligue.
Hier soir. Et puis il pourrait quand même être qualifié mais sans jouer.
Qualifié.
Alors voilà, champion, le lapsus, qualifié. Champion. Ce sera peut-être cette semaine ou la semaine prochaine pour la Ligue des Champions. Non, peut-être sacré champion de France sans jouer ce dimanche, le PSG.
Oui, alors là, c'est assez simple finalement. Il y a un match Monaco-Lyon, Lyon-Monaco plutôt dans 30 minutes, un petit peu moins d'ailleurs. C'est assez simple, je vous le disais, parce que si Monaco, deuxième du classement, ne bat pas les Lyonnais, eh bien les Parisiens seront sacrés sans jouer. Sinon, ce suspense, ce faux suspense durera encore quelques temps, mais Paris sera sacré champion. On va éteindre évidemment tout faux suspense. Monaco, on le disait, qui doit quand même gagner, qui voudra gagner parce que derrière les Monégasques, ça pousse. Lille a gagné 2-1 à Metz et revient à 3 points. Et puis Brest en ce moment mène à Rennes 4-3, un match hyper spectaculaire. Il reste une quinzaine de minutes dans ce derby breton. Brest qui reviendrait à deux longueurs de Monaco si cette victoire se confirmait. Lille est à 3 points des Monégasques. Et puis il y a Marseille-Lens aussi ce soir pour la suite des places européennes, on va dire.
Et puis rapidement, le football féminin. Et là encore, il y a le PSG qui n'est ni sacré ni qualifié pour la finale de la Ligue des Champions.
Et non, c'est Lyon en habitué. Hein, l'OL 11e finale continentale, 11e finale de Ligue des Champions pour les Fenotes qui se sont imposés tout à l'heure au Parc des Princes face au Paris Saint-Germain. Donc Chawinga, la fameuse attaquante du Malawi, c'est ça, hein, je dis pas de bêtises, ouais. Je parle sous votre contrôle, elle avait marqué pour les Parisiens. Merci de me rassurer, mais
elle a égalisé pour le PSG.
Ça n'a pas suffi puisque les Lyonnaises se sont imposées 2-1 avec un but de la haïtienne Dumornay notamment. 2-1 au retour, 3-2 à l'aller. Calculé, ça fait combien, Hugo? Vous calculez pas.
Je suis en train de faire des signes sur l'ensemble des deux matchs.
Et donc,
en train de faire des signes pour agencer la suite de l'émission. Voilà. Puisqu'on livre les coulisses.
Les Lyonnaises qui visent en tout cas un 9e titre en Ligue des Champions, la finale le 25 mai face à Barcelone, le FC Barcelone, tenant du titre de cette Ligue des Champions.
Merci beaucoup, Thomas de Saint-Léger.
Et merci.
Voilà, le jingle, il est parti à temps et c'est de ça dont je m'assurais pendant le point actualité de Thomas de Saint-Léger. Le basket, la basketball Africa League, on va parler NBA et Joël Embiid surtout dans quelques instants dans Mondial Sport sur RFI. Je salue hein, Guillaume Buffet qui est à la réalisation et qui fait partir les jingles pile poil. Vous inquiétez pas, hein, qu'il n'écoute pas mes petites taquineries dans Mondial Sport ce dimanche. On parlait du Rwanda, on parlait d'imbroglio diplomatico sportif. La balle n'a pas été épargnée, la Basketball Africa League Malik Dao, justement, lors de la première conférence de la saison régulière en Afrique du Sud, qui a vu le FUS de Rabat et puis le Petro Atletico de Luanda se qualifier pour justement la phase finale au Rwanda. Elle a toujours lieu au Rwanda. Le Rwanda sponsorise aussi, et le problème, c'est que ça n'a pas plu à un club qui devait participer à cette phase sud-africaine de qualification pour le Rwanda, à savoir les joueurs du club burundais, du Dynamo. Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur cet imbroglio qui a eu lieu au mois de mars?
Alors, Avant le premier match, on a vu arriver les joueurs du Dynamo Basketball Club du Burundi avec leur maillot sur lequel ils avaient mis du scotch pour barrer le sponsor Visit Rwanda. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que depuis la première année de la BAL, Visit Rwanda est un des sponsors principaux de la BAL et sponsor historique. Le souci, c'est que le Dynamo, en participant à la Road to BAL, savait.
Donc la première phase de qualification de la compétition.
Voilà. Donc ils ont participé à la Road to BAL, ils ont participé à l'Elite 16. Donc ils arrivent à un niveau où ils ne peuvent pas poser ce problème-là parce que tout au long de la compétition, ils savaient que Visit Rwanda allait être le sponsor pour ce qu'on appelle la saison régulière de la BAL. Et donc les joueurs qui sont un peu pris au piège, ils jouent le premier match avec le sponsor caché. La BAL qui réagit en disant « on ne va pas laisser passer ça, vous aurez une amende si, », oui, si ça continue. Et entre le premier et le deuxième match, on reçoit un courrier de la Fédération burundaise de basket qui dit « voilà, nous, on refuse de porter les maillots du sponsor parce que nous avons des problèmes avec le Rwanda ». Et encore une fois, la politique se mêle.
Voilà, là encore, il y a un arrière-fond politique voilà, entre exactement. Burundi et le Rwanda, ouais. Sans trop s'étaler par rapport à quoi exactement ?
Des problèmes politiques parce que les deux pays ne s'entendent pas, la frontière est fermée entre les deux pays depuis un moment. Et les joueurs, pour moi, sont pris au piège. Ils sont pris au piège parce qu'ils gagnent le premier match. Ils battent les Cape Town Tigers à domicile et ils font un très bon match. Et puis derrière, tout s'écroule. Le rêve de pas mal de joueurs s'écroule parce que la politique, encore une fois, vient prendre le dessus sur le sport.
Et ça, on imagine, Karim Baldé, que le chaperon, on va dire, la NBA et son savoir-faire américain. Et c'est vrai que pour l'instant, la Basketball Africa League a l'air d'être quand même une sacrée réussite pour une compétition aussi jeune dans la structuration. En tout cas, c'est les échos qu'on peut en avoir, notamment grâce à Malik Dao. Là, c'est peut-être une réalité à laquelle les organisateurs américains vont peut-être devoir s'adapter. Ils n'y sont pas forcément habitués.
Oui, c'est vrai. Et ça paraît assez surréaliste, vu le récit de Malik, de savoir qu'ils ont participé aux phases préliminaires en sachant que Visit Rwanda allait apparaître sur leur maillot. Et c'est là où peut-être que les Américains, en tout cas les organisateurs, vont tirer les leçons, peut-être en mettant des clauses dès le départ, dès l'engagement dans la Road to BAL, pour dire bon,
non,
de
c'était
toute
écrit.
Façon... Ah bah c'était écrit.
C'était écrit.
Ah bah si c'est écrit,
voilà.
Là je
c'était déjà
pas
blindé.
C'était déjà écrit.
Si, parce que ça m'aurait étonné que c'était pas blindé. Hein.
Ah, non.
Pour les Américains.
Non, sur ce plan-là, le règlement, il est là, il est écrit. La BAL n'a fait qu'appliquer les textes qui sont écrits.
Bah donc la faute est rejetée uniquement sur
C'est la FEBABOU qui est seule responsable de ce problème.
On attend de connaître donc les derniers qualifiés pour les play-offs, la phase finale au Rwanda. 8 équipes en tout, c'est ça, seront à Kigali au Rwanda, donc fin mai, début juin pour le dénouement de cette Basketball Africa League. Vous qui la suivez depuis quelques temps, on a déjà dit un mot il y a quelques secondes. Oui, c'est une compétition, ça prend clairement.
Ça prend parce qu'il y a une belle structuration, ça prend parce que les phases finales sont toujours palpitantes, ça prend parce que justement... Ils ont réussi à faire ce que la Confédération africaine de basket n'a pas réussi à faire par le passé, c'est-à-dire avoir cette compétition-là majeure, centrale dans l'année, avec un système de qualification qui permet à tout le monde de rentrer dans la danse.
Et c'est les champions nationaux peuvent aller dans la balle, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. C'est pas une ligue fermée NBA avec toujours les mêmes sur le...
C'est un gros avantage, parce que si c'était une ligue fermée, là, on aurait une confiscation du basket dans certaines grandes villes, et on sait les grandes villes qui peuvent accueillir ce genre de franchise.
Et ça ressemble un peu à ce que le football, la CAF,
avec la IFL
est en train
aussi,
d'essayer
la African
de mettre...
Football League.
Et là,
avec
pour le coup,
FIFA.
Ça a l'air d'être très fermé pour le coup. Et là, ce sera la balle est plus ouverte pour l'instant.
Oui, c'est très ouvert en fait. Faut dire que la BAL est l'enfant de l'union entre la FIBA et la NBA. Ça, il faut jamais l'oublier. Et
la fédération.
Voilà, Alphonse Billet est un des précurseurs aussi de ce mouvement-là, secrétaire général de la FIBA. La FIBA, par exemple, s'occupe de tout ce qui est phase préliminaire. Et puis, la NBA, à travers la BAL, s'occupe des phases de saison régulière. Donc, ce sont des choses qui sont écrites, qui sont bien faites. Et moi, je pense sincèrement qu'au-delà des clubs qui vont se qualifier pour les play-offs ou qui participent, les championnats locaux, le niveau des championnats
locaux... Vont en profiter.
...est vraiment en train...
Même s'il y a une forme d'élitisme, si je puis me permettre, puisque on a des pays qui... Des clubs, pardon, qui se qualifient via les phases de qualification. qualification, la fameuse road to BL, donc la route pour la balle, mais on a aussi des qualifiés directement pour la saison régulière et les phases de groupe. On a 6 équipes qui se qualifient en partant du bas et 6 qui sont déjà
C'est un système mixte. Oui. Bah, c'est un système mixte, après tout, pourquoi pas, j'ai envie de dire. Tant qu'on laisse une chance à tout le monde de pouvoir accéder, pourquoi pas, ça permet quand même d'avoir des clubs majeurs qui restent là et qui peuvent porter aussi le niveau vers le haut, parce que s'il n'y avait que des qualifications, on va dire, sur le mérite sportif, peut-être qu'on aurait un déséquilibre au bout d'un moment. Je sais que ce n'est pas un discours que tout le monde aime, mais en tout cas, moi, je trouve ça bien qu'il y ait un mélange des deux.
Rendez-vous samedi pour le début de la troisième et dernière phase de groupe, la conférence de Dakar, la conférence Sahara de la Basketball Africa League, et puis le dénouement, ce sera fin mai au Rwanda. Mickey 3D, nous étions des humains, Mondial Sport sur RFI, puis on parle de Joël Embiid. Lui aussi fait le lien entre le basket, l'Afrique et les États-Unis.
Et les politiques.
Avec la France au milieu, les Français ne sont pas contents de lui.
Nous étions des humains, des vivants de demain, partis pour un très long chemin. Nous avions des bâtons, de la boue sur les mains, on suivait les étoiles et c'était bien. Quand le jour se levait, on lui disait merci. Merci d'être repassé par ici. Quand nos yeux se fermaient sur un dernier soupir, on n'avait pas l'impression de mourir.
Et 3D, nous étions des humains sur RFI, le basket dans Mondial Sport, la NBA de l'Afrique à son berceau, à savoir les États-Unis, le berceau de Joel Embiid, lui, il est bien sur le continent, donc c'est un peu le chemin inverse. Le pivot vedette de Philadelphie, il vient évidemment, il est natif du Cameroun, il brille en NBA aux États-Unis et il jouera pour la Team USA, donc les États-Unis toujours, lors des Jeux Olympiques de Paris. Et justement, il y a quelques années, il y avait eu cette envie de la part de Joel Embiid de jouer pour la France. En vue des JO de Paris, il avait effectué des démarches pour obtenir la nationalité française. Il avait suscité des espoirs finalement déçus, très déçus pour les Bleus et leurs supporters. Et une lettre envoyée à l'époque par Embiid au président de la République française, Emmanuel Macron, vient, il y a quelques jours, d'être exhumé, dans les médias français. Une grosse fuite pour une grosse polémique.
Est-ce que c'est l'un des matchs les plus difficiles
Le document daté du 28 octobre 2021 déshonore un peu plus Joel Embiid.
Je le déteste.
À l'époque, le pivot de Philadelphie n'avait pas choisi sa sélection. Et l'idée de revêtir le maillot des Bleus semblait lui plaire au plus haut point.
Je trouve qu'il a manqué de respect à la France, il a manqué de respect à toutes ces personnes qui demandent le passeport et qui ne l'ont pas.
Alors pour appuyer sa demande de naturalisation, le géant de 2m13 a étalé tous ses liens avec la France,
et sous prétexte qu'on est un athlète de haut niveau, on a le droit à ça. Je trouve ça scandaleux, je trouve ça honteux.
Une lettre reçue et approuvée par l'Élysée. 8 mois plus tard, Embiid obtenait son passeport sans garantir à la Fédération française sa présence aux Jeux Olympiques.
Déchéance de nationalité, intellection territoire, tu vas pas jouer les Jeux Olympiques, tu viens avec Team USA et à, la, et à l'aéroport on dit, hé mec, t'as pas le droit de rentrer sur ce territoire là. Tu rentres chez toi, tu es Camerounais, tu es Américain, tu n'es pas Français, tu dégages et tu ne joues pas les Jeux Olympiques.
Car en douce, les Américains l'avaient eux aussi sollicité.
Il ment à notre président de la République en nous prenant pour des débiles et un pays sous-développé. Qu'il aille se faire voir.
Le revirement d'Embiid a été accepté par les joueurs français. Sa proximité avec son coéquipier Nicolas Batum en est une preuve. L'accueil du public français l'été prochain s'annonce lui moins chaleureux.
I'm not talking in French.
Le résumé de l'affaire Embiid avec Talon. Le talent de Babacar Diarra sur RFI, mêlé à la réaction outrée et limite d'un consultant sur une autre radio. C'est pas RFI, RMC, Fred Vess, c'est lui hein, qui s'énerve, je le déteste. Oui. On va pas le laisser rentrer, on va lui enlever la nationalité. C'est pas RFI. Et puis Joël Embiid qu'on entend au début et à la fin. Il doesn't want to speak French avec les journalistes français ou en tout cas francophones qui sont aux États-Unis. Et ils disputent les playoffs en ce moment sous les yeux eh bien, de Théo Quintard, n'est-ce pas Théo Quintard? Bonjour Théo Quintard.
Bonjour Hugo, bonjour à tous. Alors malheureusement, moi je suis un petit peu loin des playoffs à San Antonio.
C'était pas à vous qu'il parlait alors, Joël Embiid.
malheureusement, non, je crois que c'était à des collègues, peut-être à Toronto, je ne sais plus, mais voilà.
C'était pas à Toronto, c'était dans le vestiaire après le match 2, je crois, de la série face à New York.
Oui, parce qu'il est
en micro canal. Je crois que c'était Canal Plus d'ailleurs qui était là.
Alors il est en plein dans les playoffs.
Des collègues de Toronto qui ont réagi sur ça sur Twitter.
Ah d'accord. Bon.
Joël Embiid parlait en français ou pas après les matchs, voilà.
Bon, en tout cas, voilà, c'est les playoffs. Philadelphie, c'est Sixers de Philadelphie à Joel Embiid sont menés 2-1 par les Knicks de New York, mais ils ont réduit l'écart grâce à 50 points hein, de Joel Embiid, qui est quand même bon sur le terrain. Théo Quintard, le Wemby reporter désœuvré, parce que pas de Wembanyama et pas de Spurs de San Antonio en playoff de NBA cette saison. Voilà, donc il est bon sur le terrain quand même. On va peut-être commencer par là d'ailleurs, avant la polémique. Joel Embiid, 50 points donc pour le premier tour des playoffs dans le match. Match 3, conférence Est du premier tour des playoffs face aux Knicks de New York. Il permet à son club de revenir un petit peu dans la course. Lui, le meilleur joueur de la saison passée en NBA. Il performe, un peu moins son équipe. Il a des petits problèmes de santé aussi, c'est ça?
Ouais, c'est ça. Voilà, il a mis 50 points le match 2, 34 points le premier match, 29 points. Donc vraiment, il porte les Sixers sur ce début de playoff sur ses épaules. Donc voilà, pourquoi pas accrocher et gagner cette série contre les Knicks qui sont, rappelons-le, deuxième de la conférence Est. Mais malheureusement, Joel Embiid a des petits problèmes de santé. Il a récemment dit qu'il avait, je crois, la maladie de Bell, oui c'est ça, qui paralyse légèrement le côté gauche de son visage, donc sa bouche, son œil. Donc voilà, c'est pas forcément très joli. Les images font peut-être un petit peu peur, mais Joel Embiid s'est plutôt montré rassurant, même si l'origine de cette maladie n'est pas forcément connu. Ça pourrait s'agir d'une réaction voilà, à cause d'une infection virale, mais d'ici quelques semaines, quelques mois, tout cela sera derrière lui. Mais c'est vrai que les images sont impressionnantes et je pense que ça le gêne au niveau de l'œil gauche, je crois, pour jouer.
Et pourtant, il met 50 points, ouais. Malgré cette maladie de Bell. Ça s'écrit comme Joseph-Antoine Bell, ça n'a rien à voir aussi, je préfère préciser. On salue Joseph-Antoine Bell. La polémique et cette lettre exhumée qui montre qu'il a tout fait pour obtenir la nationalité française pour mieux ne pas jouer pour la France, ça a des échos aux États-Unis? Parce que ce sont finalement les États-Unis qui vont en profiter. Je crois qu'il a été officiellement retenu pour les Jeux Olympiques il y a quelques jours. Théo Quintard, est-ce qu'on en parle chez vous de cette polémique?
Oui, les médias qui suivent la NBA au plus près, je pense notamment à The Athletic, ils en ont parlé. Mais voilà, pas plus que ça. Je pense que cette lettre un petit peu, bon voilà, le timing peut interroger pourquoi est-ce qu'on aurait cette lettre-là à ce moment-là. Mais voilà, je pense que c'est un parfait résumé de la situation Joel Embiid avec la France. Voilà, il y a cette impression que Joel Embiid a mené la France, les Français, la Fédération, le gouvernement français un petit peu en bateau. Donc voilà, c'est difficile à cerner. Est-ce qu'à un moment, il a vraiment, au fond de lui, voulu jouer pour la France ou pas? Ça, je ne sais pas.
Alors, mes échos au Cameroun, c'est que les Camerounais, je ne sais pas s'ils en veulent ou pas, mais ils n'ont pas envie de le laisser se dépatouiller avec ça. Ils n'en parlent pas.
Je confirme.
Ils n'ont pas de réaction. Vous en pensez quoi, vous, Malick Daou et Karim Baldé, donc de cette affaire Embiid une saison quand même un peu étrange. Hein. Ils se sont qualifiés un peu difficilement, quand même, ces Sixers, pour les playoffs. Il a eu une grosse blessure. Ils sont passés par une espèce de barrage.
Le rattrapage.
Le play-in. Il a eu une grosse blessure qui l'a empêché de concourir au. Il ne peut pas être MVP. Hein,
non,
ça, à cause du nombre de matchs disputés, il y a cette polémique et pourtant il y a quand même 50 points en date, si je puis dire.
Mais moi, je préfère Joel Embiid sur le parquet que devant un micro, parce que devant un micro, malheureusement, il a moins de talent en termes de communication. Cette histoire de nationalité, la lettre qui est exhumée au dernier moment, c'est un peu une réaction de mauvais perdant, parce qu'au moment où il sollicitait la nationalité française, il avait vraiment envie de jouer pour l'équipe de France. Et n'oublions pas aussi la réaction d'Evan Fournier, qui à ce moment-là n'était pas d'accord. Donc,
voilà. Oui, joueur français qui s'exprimait
un sur des leaders,
quelque chose qui n'était pas fait.
Voilà, un des leaders de l'équipe de France qui à cette époque-là n'était pas d'accord. Boris Diaw qui menait les négociations, qui demandait que les choses se calment. Et puis, c'est un projet. Au début, il a envie d'être français. Au milieu du projet, il change, il retourne sa veste. Oui, on peut lui en vouloir.
C'est vrai qu'on n'a pas tous, tout le monde n'a pas l'oreille du président Macron. Il y a un peu la pression qu'on a fait des privilèges à quelqu'un qui,
au
final...
Il aime les sportifs. Il peut recevoir Kylian Mbappé à dîner en privé avec son
épouse. Il joue parfois au chef de délégation avec les...
Exactement. Donc ça, on ne peut pas en vouloir non plus au président Macron d'aimer les sportifs. Il aime les sportifs. Il s'est même pris un petit pont la semaine dernière pendant un match, caritatif. Voilà.
Oui, donc Joel Embiid a aussi profité d'une tentative de récupération, mais il a profité du système.
Voilà, ça ne marche pas, Mais la réaction de Fred Weiss, pour moi, elle est excessive.
Oui, surtout les histoires de...
Déchéance, etc.
On se désolidarise totalement, on condamne.
En revanche, là où je suis un peu d'accord avec Fred Weiss quand même, mine de rien, de ce qu'on a entendu dans le montage, c'est qu'effectivement, on a l'impression que Joel Embiid s'est un peu foutu de la gueule du monde, pardonnez-moi l'expression, en voulant être français pour ensuite aller aux États-Unis. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens dans le monde, et notamment en Afrique, qui veulent faire des démarches pour devenir français. On sait à quel point c'est très compliqué aujourd'hui, ne serait-ce que pour avoir un visa pour la France quand on vient d'Afrique. C'est extrêmement compliqué. Pour avoir un passeport, c'est encore plus compliqué. Et donc, quand on voit quelqu'un comme Joel Embiid qui profite de ce statut de star pour mettre les deux pays en balance, etc., pour ensuite décider de jouer pour les États-Unis, moi, ça me scandalise personnellement. Ça me scandalise. Mais bon, dernière petite chose
quand même.
L'histoire de Joel Embiid dans le vestiaire quand il dit « I'm not talking in French », ça me fait penser à ce que j'ai vécu lors d'un match avec le Cameroun, en foot cette fois, avec André Onana, qui m'a dit exactement la même chose en zone mixte, pour ne pas répondre. Il avait dit « je ne parle pas français, I don't speak French ». Et là, je l'ai regardé d'un air complètement atterré. Qu'est-ce qu'il me raconte ?
Ce qui me scandalise,
je regarde la petite blague camerounaise.
Ce qui me scandalise, c'est que Joel Embiid ne choisisse pas de jouer, de s'investir et d'investir dans le basket camerounais.
C'est
surtout ça qui me scandalise. Après, France-États-Unis, franchement, c'est pas mon problème.
Moi, c'est la manière surtout. France-États-Unis, c'est la manière qui est quand même déplorable.
Théo Quintard, on a plus beaucoup de temps à passer ensemble. Un dernier mot avec vous. Merci de nous avoir rejoints pour la fin de Mondial Sport. On parlait du trophée de MVP, donc qui ne sera pas pour Joel Embiid. Les playoffs en sont à leur début. La saison régulière est terminée. Ces récompenses individuelles, elles tombent quand ? Donc en NBA, est-ce que Wemby, votre chouchou, aura quelque chose ? Est-ce qu'il y a une fumée blanche qui s'annonce en 10 secondes ?
Oui, une fumée tricolore, j'ai envie de dire, une fumée bleu-blanc-rouge, voilà, rookie de l'année et défenseur de l'année, comme on l'avait déjà dit, je pense que ça va être un petit peu compliqué, ce sera pour Rudy Gobert qui est plutôt bien parti pour l'instant en play-off avec les Wolves.
Bon, on a deux fumées bleu-blanc-rouge, alors si je vous suis Wembanyama, Rudy Gobert, c'est pas si mal, et puis on suivra donc ce palmarès. Merci Théo Quintard d'avoir été avec nous, merci Malick Daou, merci Karim Baldé, merci Guillaume Buffet à la réalisation de Mondial Sport, on se retrouve le week-end prochain, et puis demain, Radio Foot, excellente soirée sur RFI. Tout de suite, un nouveau journal international avec Nicolas Brousse.